de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministre britannique des Affaires étrangères visite l'Indonésie, un pays d'Asie du Sud-Est. La Malaisie supprime une partie des frais COVID-19 pour les étrangères à Kalia. Devant les policières du monde, l'Istio promet à la police de promouvoir l'égalité des genres. L'explosion des cas de COVID-19 doit retenir l'attention du gouvernement. La vaccination à 90%, Sydney ajoutera un assouplissement du COVID-19. Eric Thohir explore la coopération d'investissement de BUMN avec le Qatar. Le plus grand producteur de sucre des Émirats arabes unis est prêt à investir en Indonésie, a affirmé le ministre indonésien de l'Industrie. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, se rendra en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie pour une visite d'une semaine en Asie du Sud-Est visant à approfondir les liens économiques et de sécurité avec la région. La visite, qui commence dimanche, reflète l'importance croissante des relations économiques et diplomatiques alors que la Grande-Bretagne cherche à renforcer ses liens avec des pays et régions hors d'Europe après avoir quitté l'Union européenne ou Brexit. Truss a déclaré cela dans un communiqué publié par son bureau dimanche dernier. Elle a déclaré que l'Asie du Sud-Est serait le moteur de l'économie mondiale et qu'elle souhaitait que le Royaume-Uni en fasse partie, renforçant les liens économiques et de sécurité qui reflètent l'importance croissante de la région. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que Truss chercherait à établir des liens plus étroits dans les investissements, dans les infrastructures, dans la région. Truss s'entretiendra également sur des questions de politique étrangère, telles que la Birmanie et l'Afghanistan, avec ses partenaires indonésiens, dont l'un est la cybersécurité. Le gouvernement malaisien a supprimé les frais d'exploitation pour la quarantaine de COVID-19 pour les ressortissants étrangers entrant dans la porte des arrivées internationales à l'aéroport international de Kuala Lumpur ou Kalia de 2600 RM ou 8,9 millions de roupias, qui a été en effet depuis le 24 septembre 2020. COVID-19 pour les étrangers est annulé lorsque les frais de forfait standard pour les stations de quarantaine privées sont toujours valables au 15 novembre 2021. le ministre malaisien de la Défense, Hishamuddin Hussein, a déclaré dans sa déclaration à Putrajaya dimanche dernier. Hishamuddin Hussein a déclaré que le transfert de la gestion des stations de quarantaine des hôtels vers des stations de quarantaine privées était basé sur les directives d'exploitation et de surveillance des stations de quarantaine privées par l'Agence malaisienne de gestion des catastrophes, ou abrégée en NADMA. Il a également mentionné le coût de la quarantaine pour ce groupe de citoyens malaisiens exclus des personnes à charge par le gouvernement, mais n'a pas donné plus de détails. Auparavant, le premier ministre Ismail Sabri Yaacob avait annoncé que tous les étrangers arrivant à toutes les entrées internationales devaient payer le coût total de la quarantaine à compter du 24 septembre 2020. Le chef de la police nationale indonésienne, le général Listio Sigit Prabowo, a déclaré que la police nationale continuait de lutter pour l'égalité des sexes en Indonésie, y compris les carrières de la police féminine ou Polwan, dans le cœur de Bayangkara. C'est ce qu'a déclaré Listio Sigit Prabowo lors de l'ouverture de la 58e conférence de l'Association internationale des policières à Labuan Bajo. Nusa Tenggara Oriental dimanche 7 novembre 2021. La conférence de l'Association internationale des femmes policières à Labuan Bajo a réuni un total de 980 participants en personne et en ligne de 39 pays. Les participants directs ont totalisé 446 participants de 17 pays et des organisations internationales. Le chef de la police nationale devant 446 participants qui étaient présents directement à Labuan Bajo a souligné que la police continuerait à fournir un espace pour Polwan. Listio a ajouté que la tenue de la 58e conférence de l'Association internationale des femmes policières à Labuan Bajo fait partie des efforts de la police nationale pour continuer à promouvoir l'égalité des sexes. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Lestari Murdijat, a rappelé au gouvernement que l'explosion des cas de COVID-19 dans un certain nombre de pays devrait être une préoccupation pour le gouvernement dans la réouverture du secteur du tourisme. Lestari Murdijat, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré qu'un certain nombre de rapports ont indiqué que les cas de COVID-19 en Europe avait bondi de 50% en octobre dernier, de sorte que le continent était à nouveau l'épicentre de la pandémie. De même à Singapour, que jusqu'à la fin du mois dernier, les cas positifs de COVID-19 ont également fortement augmenté, bien que le pourcentage de citoyens vaccinés soit tout à fait adéquat. Selon Lestari, les événements en Europe et à Singapour doivent être une préoccupation commune dans chaque mise en œuvre des politiques de contrôle de COVID-19 en Indonésie. Ne laissez pas l'enthousiasme à faire venir des touristes étrangers ignorer la menace de l'entrée du virus corona dans un certain nombre de pays qui connaissent toujours une explosion de cas positifs de COVID-19. La plus grande ville d'Australie, Sydney, ajoutera lundi son assouplissement des règles de distanciation sociale lorsque près de 90% de sa population a reçu deux doses de vaccin. Bien que cela soit limité à ceux qui sont complètement vaccinés, la relaxation en Nouvelle-Galles du Sud, l'État où se trouve Sydney, comprend un certain nombre de règles. L'une des règles qui a été supprimée était la limite du nombre d'invités pouvant visiter la maison ou le nombre de personnes assistant à des événements dans un espace ouvert. Le chef de l'État, Dominic Perrottet, a déclaré qu'il sortait le pays de la pandémie. Alors que des centaines de personnes ont organisé dimanche des manifestations anti-vaccins à Sydney, mais ces manifestations ont été modestes en Australie. Les sondages montrent que le nombre d'opposants aux vaccins de ce pays est seulement d'environ un chiffre. Malgré l'épidémie de Delta qui a déclenché des mois de confinement à Sydney et à Melbourne, le nombre total de cas de COVID-19 en Australie est d'un peu plus de 180 000, bien moins que de nombreux autres pays développés, avec 1597 décès. Le ministre des Entreprises publiques ou BUMN, Eric Thohir, a exploré un certain nombre de coopérations en matière d'investissement avec le Qatar lors de sa visite dans ce pays du Moyen-Orient. Lors d'une réunion avec le ministre des Entreprises publiques, l'institution d'investissement du Qatar, ou Qatar Investment Authority, ou QIA, a admis qu'il était impressionné par le potentiel et le développement des affaires en Indonésie, en particulier dans le domaine du tourisme et de l'énergie. Eric Thohir, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré que la réunion avait débouché sur un certain nombre de points importants, dont l'intérêt de QIA à investir dans le tourisme et l'énergie. Le ministre des Entreprises publiques, Eric Thohir, a poursuivi sa visite de travail au Qatar dimanche dernier. Au cours de la visite, Eric Thohir a eu une réunion avec le cheikh Faisal bin Thani Al Thani, chef des investissements de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique à QIA. La plus grande institution d'investissement au monde a exprimé son intérêt à investir en Indonésie. Selon Eric, le Qatar est très impressionné par le développement que l'Indonésie a continué à réaliser au cours des dernières années sous la direction du président Joko Widodo. Le ministre indonésien de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita a déclaré qu'Al Khalij Sugar Coop-Ax, le plus grand producteur de sucre de la région du Moyen-Orient et le 5 premier au monde, est intéressé à investir en Indonésie pour une valeur de 2 milliards de dollars américains ou environ 28,68 billions de roupies dans le développement d'éthanol en Indonésie. Outre la production du sucre, Ax prévoit également de produire du bioéthanol et de l'électricité à partir de la biomasse. C'est ce qu'a déclaré Agus Gumiwang Kartasasmita à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dimanche dernier. L'engagement a été transmis par le directeur général d'Al Khalij Sugar Co. en tant que président du groupe de Jamal Al Ghurair lors d'une réunion avec le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita à Dubaï. En plus d'assister à l'événement Expo Dubaï 2020, la visite de travail du ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita aux Émirats Arabes Unis et aussi pour rencontrer des investisseurs potentiels, l'un était Ax. En outre, il espère que l'investissement de la société sucrière de Dubaï encouragera l'industrie sucrière nationale plus efficace à l'avenir. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Conseil représentatif du peuple indonésien approuve Andika Perkasa en tant que commandant militaire indonésien ». Vous êtes avec moi, Audrey. La commission 1 de la Chambre des représentants indonésiennes chargée de la défense et des affaires étrangères a approuvé la nomination du chef d'état-major de l'armée, le général Andika Perkasa, au poste de commandant de l'armée nationale indonésienne TNI, en remplaçant le maréchal Hadi Cahyanto qui a pris sa retraite le 8 novembre 2021. L'approbation a été donnée par toutes les factions de la Commission 1 de la Chambre des représentants lors d'une réunion interne à la suite d'un test convenable et approprié samedi dernier 6 novembre. La réunion a également approuvé la décharge honorable de maréchal Hadi Cahyanto en tant que commandant de l'armée et a rendu hommage à son dévouement. Les résultats de la réunion interne de la Commission 1 ont ensuite été présentés à une réunion plénière lundi aujourd'hui 8 novembre pour approbation par la Chambre des représentants indonésiennes. Le général Andika Perkasa est le seul candidat au poste de commandant militaire ou TNI qui a été proposé par le président Joko Widodo à la Chambre il y a quelque temps. La vision qu'il portait en tant que candidat au poste de commandant de la TNI, TNI et nous, TNI is us. Andika souhaitait que l'armée nationale indonésienne soit considérée comme faisant partie de la communauté indonésienne et internationale. Sous sa direction, plus tard, la TNI se concentrera sur plusieurs questions liées aux opérations militaires de guerre et aux opérations militaires autres que la guerre. Selon le général Andika Perkasa, la première chose et la plus importante est de rétablir les fonctions de la TNI conformément à la loi et de ne pas assumer les fonctions d'autres ministères ou institutions. Le général Andika Perkasa renforcera également la sécurité des frontières terrestres, maritimes et aériennes, notamment en augmentant la préparation des TNI dans divers domaines, tels que les cyberopérations et la synergie du renseignement, en particulier dans les zones de conflit. D'autres programmes consistent à combiner les opérations des trois dimensions au sein de la TNI, terre, mer et air, organiser et intégrer l'organisation et le rôle de la diplomatie militaire dans le cadre de la politique étrangère de l'Indonésie. Le général Andika Perkasa lui-même ne servira en tant que commandant de l'armée nationale indonésienne que pendant un an car il prendra sa retraite en 2022. Espérons que dans un délai assez court, le général Andika Perkasa pourra réaliser son programme de travail en tant que nouveau commandant de l'armée nationale indonésienne, TNI. Bon, cher Jouetard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, on va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 novembre 1939. Adolf Hitler échappe à une tentative d'assassinat à Munich. En novembre, Hitler assistait toujours à une réunion régulière dans le Beer Patch Hall. Un charpentier nommé George Elser a réussi à échapper à l'inspection et s'est entré dans le hall sans aucune difficulté pour poser une bombe. Elser a décidé de tuer Hitler à ce moment-là, également en plaçant une bombe à retardement sur le poteau arrière du podium où Hitler a prononcé un discours en Oberpatch Hall de Munich le 8 novembre 1939. Mais de manière inattendue, Hitler, qui faisait généralement toujours de longs discours, à cette époque ne faisait qu'un discours plus court que ses discours précédents. Et cette tentative d'assassinat s'est soldée par un échec en raison du discours prévu d'Hitler se terminer 8 minutes plus tôt que l'heure prévue. On continue avec l'événement du 8 novembre 1949. La Journée mondiale de l'urbanisme est instituée. L'Organisation internationale pour la Journée mondiale de l'urbanisme a été fondée le 8 novembre 1949 par le regretté professeur Carlos María de la Paulera de l'Université de Buenos Aires. La date a ensuite été désignée Journée mondiale de l'urbanisme ou communément appelée Journée mondiale de l'urbanisme, qui est une forme de renouveau spatial mondial. Jusqu'à présent, 30 pays commémorant la Journée mondiale de l'urbanisme. La commémoration de la Journée de l'aménagement du territoire vise à accroître la sensibilisation et l'appréciation du public et des professionnels des efforts d'aménagement du territoire, à la fois localement et globalement. On finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 novembre 2002. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1441. Cette résolution offre à l'Irak de Saddam Hussein la dernière chance de répondre aux demandes de désarmement énoncées dans plusieurs résolutions précédentes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 1441, à l'unanimité des 15 membres du Conseil, Russie, Chine, France et pays arabes tels que la Syrie soutient la résolution 1441. Ce soutien est plus large que le soutien à la résolution de la guerre du Golfe de 1990. Bon, cher Jétard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Kamu tahu kita telah lama berjuang bersama, suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, la visite du président Jokowi aux Émirats Arabes Unis génère les engagements commerciaux et d'investissement de 32,7 milliards de dollars américains. La visite du président Joko Widodo aux Émirats Arabes Unis mercredi et jeudi dernier a généré des engagements commerciaux et des investissements d'une valeur de 32,7 milliards de dollars américains, soit environ 469,9 millions de roupies. La ministre des Affaires étrangères, Kata Marsudi, dans sa déclaration à Abu Dhabi, a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté des progrès de la coopération en matière d'investissement entre les deux pays. Cet engagement d'affaires et d'investissement provient de 19 accords de coopération échangés jeudi à Dubaï. Retno Marsudi expliquait que cet engagement commercial et d'investissement était l'un des sujets abordés lorsque le président Joko Widodo a rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ, au palais Al Shashi à Abu Dhabi. Retour mercredi a détaillé les engagements commerciaux et d'investissement, y compris la coopération entre l'autorité d'investissement indonésienne INA, le Fonds de croissance d'Abu Dhabi ADG, INA et DB World, les panneaux solaires flottants entre Masdar et Pertamina, la raffinerie Balikpapan, la fabrication et la distribution de vaccins, j'oublie de vaccins et de produits bio. En outre, il existe divers accords passés par des entreprises technologiques d'Abu Dhabi, G42, avec des partenaires en Indonésie, entre autres dans les domaines des villes intelligentes, des télécommunications, du développement de laboratoires génomiques, etc. À la même occasion, le ministre de l'Investissement, en tant que chef de conseil de coordination des investissements, BKPM, Bahlil Hadalia, a expliqué que l'Indonésie offre des opportunités à tous les pays de réaliser des investissements en Indonésie et ne penche pas seulement vers un pays. Bahlil espère que la valeur actuelle de 32,7 milliards de dollars américains pourrait être augmentée à nouveau pour au moins dépasser 35 milliards de dollars américains. Auparavant, lorsque le président Joko Widodo avait rencontré des investisseurs à Glasgow en mars du sommet des dirigeants mondiaux COP26, l'Indonésie avait également reçu un engagement d'investissement de 9,2 milliards de dollars américains. Si bien que si le total des engagements d'investissement obtenus aux Émirats arabes unis atteint 41,99 milliards de dollars américains. Outre l'investissement, la rencontre entre le président Joko Widodo et le prince Mohammed bin Zayed a également abordé les questions du secteur commercial. Les dirigeants ont convenu que l'accord de partenariat économique global, CEPA, entre les deux pays pourrait être finalisé immédiatement. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
You know that I'll never let you down, boy. You know that you were always on my mind. me feeling alright. This old school vibes got me feeling alright.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore à notre émission magazine culturel. Et je vais vous présenter le Selayar en Sulawesi Sud. Restez toujours avec nous au service international de RRI, la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, Sulawesi du Sud annonce le manque de produits marins abondants, mais aussi en charme naturel que vous pouvez visiter quand vous êtes sur le Selayar du Sud de Sulawesi. L'île Selayar est une petite île située dans le district de Selayar, dans la province de Sulawesi du Sud. La capitale du district de Selayar est Kota Benteng. Le trajet vers l'île Selayar dure environ 10 heures depuis Makassar. Chers auditeurs, l'île de Selayar possède des plages de sable blanc très fin comme les plages de Pamatata, de Tanaera, de Lansangireng, de Taloia, de Pabadilang, de Rampang-Rampangan et de Lebuang Nipaya. Non seulement la beauté de la plage, l'île de Selayar offre également un magnifique panorama sous-marin dans le parc national de Takabonerat. Sur cette île, il existe un atoll de corail d'une superficie de 220 000 hectares. Il s'agit du plus grand atoll d'Asie du Sud-Est et du troisième au monde. Chers auditeurs, sur l'île Selayar, vous pouvez également découvrir l'unicité du village de Tua Bitombang, qui est le plus ancien village de l'île Selayar. La particularité de ce village réside dans le fait que les maisons ont un toit en bambou avec un support élevé en bois. Les piliers de la maison sont en bois de biti ou holosa, qui est de bonne qualité. C'est pourquoi les maisons de ce village restent robustes malgré leur centenaire. Une autre particularité de ce village réside dans ses habitants, dont la plupart ont plus de 90 ans, mais peuvent encore exercer des activités productives comme l'élevage du bétail et le jardinage. La beauté de la plage, de la mer, des bâtiments, de la culture, des activités communautaires et une variété de particularités naturelles et communautaires font le charme de l'île de Selayar qui est intéressante à voir et à apprécier. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir, comme le titre « L'île Selayar en sud de Sulawesi ». On se rencontre encore demain avec notre sujet le plus intéressant. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est memesan makanan. Je répète, memesan makanan, en français, commander de la nourriture. Je vais vous donner une conversation dont le titre est terlalu asin. Terlalu asin signifie trop salé. Bonne écoute. C'est une conversation entre Kevin et le serveur du restaurant pendant le déjeuner au restaurant. Kevin a commandé du riz sauté. Il s'est plaint que le riz sauté était trop salé. La situation, Kevin a parlé très déçu à cause du goût salé du riz sauté.
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Terlalu asin. Terlalu asin signifie trop salé. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois Vous pouvez le répéter après moi. Nasi goreng. Nasi goreng signifie le risotto. Terlalu. Terlalu signifie trop. Asin. Asin signifie salé. Maaf. Maaf signifie excusez-moi. Kami akan ganti. Kami akan ganti signifie nous allons remplacer. Dengan yang baru. Dengan yang baru signifie par un nouveau. Nasi gorengnya terlalu asin. Nasi gorengnya terlalu asin signifie le risotto est trop salé. Maaf Pak, kami akan ganti dengan yang baru. Maaf Pak, kami akan ganti dengan yang baru. Signifie excusez-moi monsieur, nous allons le remplacer par un nouveau. Bagaimana makanannya? Bagaimana makanannya? Signifie comment est la nourriture? Enak, tapi terlalu manis. Enak, tapi terlalu manis. Signifie c'est délicieuse, mais trop sucré. Dans la conversation, vous entendez l'expression terlalu asin. Terlalu asin signifie trop salé. Vous pouvez utiliser des adjectifs pour exprimer le goût des aliments comme le goût asin. Asin signifie salé. Manis. Manis signifie sucré. Asam. Asam signifie acide. Pedas. Pedas signifie épicé. Pahit. Pahit signifie amé. La presse terlalu asin. Terlalu asin signifie trop salé. Vous pouvez le dire quand vous ressentez un goût très très salé. Un autre exemple. Écoutons un autre exemple de l'expression du goût des aliments. Bagaimana makanannya, Pak? Bagaimana makanannya, Pak? Signifie comment était la nourriture, monsieur? Enak, tapi terlalu manis. Enak, tapi terlalu manis. Signifie c'est délicieuse, mais trop sucré. Saya pesan nasi goreng, tidak terlalu pedas. Saya pesan nasi goreng tidak terlalu pedas. Signifie je commande du risotto pas trop épicé. Baik. Baik signifie d'accord. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Jatuh cinta, cinta, ku selalu
Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson intitulée « Jangan ditanya kemana aku pergi » chantée par Tuti Mariati. Chargé tard, cette chanson d'Ismaël Marzuki a été popularisée par Chris Biantoro dans les années 1970. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui est obligé de mettre fin à son histoire d'amour parce que son amant lui a fait mal au cœur. Mettre fin à la triste histoire et aller loin est le meilleur choix pour lui. Cette chanson a ensuite été chantée à nouveau par Tuti Mariati sur un accompagnement de musique ronchon. Bon, chers auditeurs, voici Tuti Mariati va chanter une chanson intitulée « Jangan ditanya kemana aku pergi ». Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.